Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Sophie Menu, vous allez nous parler maintenant d'un mets peu connu encore, même si on en entend parler de plus en plus ces dernières années, à savoir la poutargue. Alors, moi j'en ai déjà mangé dans des restaurants, mais pour rien vous cacher, j'en ai jamais cuisiné, enfin mis dans les assiettes, c'est chez moi en tout cas. Et je suis certaine que vous allez m'aider à remédier à cette situation. On vous écoute, Sophie.
Tout à fait, Mélanie. La poutargue, ou là, elle a deux noms, hein. Poutargue ou boutargue, les deux se disent en France, c'est un produit qui intrigue, venu de la mer. Alors, on l'appelle parfois le caviar de la Méditerranée. Sa saveur puissante et sa rareté donnent forcément envie d'y goûter. Alors, je vous ai apporté une poutargue de haute compétition. Mmh. Déjà, regardez comme c'est beau la boîte.
Magnifique, hein, c'est vrai. Alors,
on dirait une carotte.
Ouais, non, mais non. Elle a, le designer a joué
c'est
en fait
classe,
sur une poutargue.
C'est trop beau.
Et c'est une jeune femme qui s'appelle Florence Châtelet qui a décidé de mettre en avant tous les petits producteurs de produits un peu rares.
Faites
comme
ça. Faites-nous
passer
ce coffret qu'on regarde un petit peu.
Je vais
peu.
Vous passer ouais. le coffret, puis je vais vous... Alors, elle nous a envoyé deux sortes de poutargues. Mmh. Mais on va déjà commencer à parler de ça. Alors, mesdames, si je vous dis mulet, vous me répondez quoi ?
Coupe. C'est vrai. C'est pas un âne. Hein.
Moi, je pensais à la coupe mulet.
Oui, la coupe mulet.
Un truc entre l'âne et le cheval, c'est
oui.
ça ?
Oui, c'est ça aussi. Mais c'est aussi un poisson. Et ce poisson, c'est ce poisson qui m'intéresse pour vous parler de la poutargue. Parce que c'est les œufs de ce poisson très recherché avec lequel on élabore ce produit qui est devenu un produit de luxe, mais qui au départ était un produit très populaire. En arabe, boutarga signifie œuf de poisson salé et séché, c'est-à-dire conservé dans la saumure. C'est encore le cas. Alors en France, comme je vous l'ai dit, on l'appelle boutargue ou poutargue. Mm-hmm. En Italie, on l'appelle botarga. En espagnol, pareil, avec un T en moins. On la trouve principalement, ce poisson se trouve principalement sur le bassin méditerranéen, quelquefois aussi en Atlantique et en Mauritanie.
Alors, parlez-nous de la poutargue que vous nous avez apportée.
Alors, comme je vous le disais, Florence Châtelet, elle a eu envie de faire un produit le plus pur possible, loin des sirènes d'ailleurs du marketing. Et elle a remis en avant ce produit qui est très simple, hein, puisqu'on pêche le poisson. Et elle a fait ce qu'on appelle la slow maturation, c'est-à-dire une maturation très douce qui combine affinage, fumage et fermentation. Alors vous allez goûter. Alors,
oui.
Il y en a deux.
D'accord.
Alors je sais, vous, Julia, vous adorez la poutargue,
j'adore,
je crois.
J'adore ça, les pâtes. Alors, à la poutargue, c'est délicieux.
Exactement. Alors celle que vous avez, c'est une poutargue qui a été maturée seulement un mois et elle est encore molle.
Alors,
mange...
Je décris un petit peu pour nos auditeurs, oui. Ce sont comme des poches en fait, remplies d'œufs de poisson, des œufs de poisson qui sont de couleur orange, vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a des poissonniers qui en vendent aussi, hein. Moi j'en ai chez
Il y a des poissonniers,
poissonnier.
Je vous fais goûter aussi Benjamin, vous faites passer.
Comment ça se fabrique alors ?
Alors ça, c'est à Martigues, en France en tout cas, hein, qu'on la prépare depuis plus de 5 siècles. On pêche les mulets avant que les femelles rejettent leurs œufs, quand elles sont bien pleines. Une fois pêchées, avec les mains, tout est artisanal. On prélève la poche très délicatement, on la rince, on la pose sur des cristaux de sel qui vont durcir cette pellicule qui entoure les œufs. Mmh. On va la laisser sécher comme ça un petit peu. Et ensuite, on va la dévener comme un foie gras.
Ah oui.
Et on laisse sécher encore sur des clayettes pour suspendre ensuite et continuer en fait le séchage.
C'est pas facile à dire,
non,
séchage.
Non.
Mais on peut la trouver où, cette poutargue, alors ?
Alors, comme Mélanie disait, on la trouve maintenant plus facilement chez des poissonniers, dans des épiceries fines, dans des épiceries spécialisées sur les produits de la mer, dans les supermarchés, et sur l'épicerie en ligne de Florence qui s'appelle DSA.
DSA,
ouais, D-A-E-H-E-S-A, donc on peut l'acheter en ligne comme ça.
Et vous disiez le caviar de la mer, pourquoi c'est si cher ?
Mais pourquoi parler d'argent ? C'est vrai que c'est cher, parce que d'abord, alors son prix oscille selon les années entre 160 et 220 euros le kilo.
Wow. C'est cher, hein ?
Donc c'est vrai que c'est cher, mais il faut des gros œufs pour faire de la bonne poutargue, donc difficile à trouver. Les mulets gris qui servent à faire cette poutargue sont de plus en plus rares. On les trouve en Espagne, autour de la mer Méditerranée, Atlantique, au Maroc, aux Canaries. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que c'est cher, mais on l'utilise très peu, en fait.
Bah oui,
c'est comme
pour le caviar,
finalement.
Hein, si on en utilise une petite tranchette très fine, et ça suffit sur une petite tartine de pain là, avec un peu de beurre, c'est délicieux. Moi, j'ai acheté de la poutargue aux truffes pendant les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne voudrais pas me disputer avec vous, Mélanie.
Non, mais je n'étais pas convaincue non plus en goûtant. Hein. Finalement, je suis débordée par les saveurs un peu artificielles, finalement, en plus.
L'aromatisation n'a aucun sens dans un produit comme ça, qui est un produit d'une pureté extrême. C'est, en plus, où vous mangez de la truffe, où vous mangez de la poutarde.
Mais pas les deux ensemble. Ouais,
pourquoi mélanger les deux?
Ça coûte un bras. Hein,
exactement.
Je vais vous rassurer, coûte... Sophie. J'ai également une poutarde toute fraîche et sans rien, sans aromatiser. Pas du tout aromatisée dans mon frigo. Je vais en faire quoi alors?
Alors, vous pouvez... c'est très simple. Soit apéro, vous sortez un petit blanc de Provence. Ou
c'est rare qu'on fasse l'apéro chez moi, c'est dommage.
Ça, il faut voir avec votre mari. Et vous les coupez en lamelles très fines et vous faites comme je vous ai proposé là, c'est-à-dire sur du pain, sur du beurre. Un dîner de dernière minute, vous faites cuire des spaghettis al dente. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive, ça sent déjà les vacances et l'été. Vous rajoutez quelques lamelles de poutarde.
Moi, je pense que ça va finir comme ça chez
ou
moi.
Vous la râpez quand elle est sèche, sur des œufs brouillés.
J'ai une microplane, ça sera bien là-dessus.
C'est génial. Avec la microplane, c'est génial.
Sur des œufs brouillés.
Sur des œufs brouillés, c'est super bon, un peu comme on met de la truffe d'ailleurs sur les œufs brouillés. Bah là, mettez de la poutarde. Et surtout, il ne faut pas la faire cuire, en fait, parce que ce qui est bon, c'est
ça,
sa naturalité.
Ça ne se cuisine pas. Hein, ça se cuisine pas. Ça se met sur quelque
chose. C'est un produit d'exception tout seul. Donc, vous faites comment à Marseille, Julia, quand vous la
dégustez? J'y vais ce week-end, vous savez, à Marseille. Et c'est les gens qui... Je vais dans
qui
un
le
restaurant.
Font pour elle.
Je vais dans un restaurant.
Tout d'un coup, je me disais, mince, Julia, ça y est, c'est mis à la cuisine.
Non, mais par contre, il m'arrive d'avoir de la poutargue. De la poutargue à la maison. Et effectivement, comme je suis une très mauvaise cuisinière, il suffit de couper la poutargue et mettre des petits bâtonnets, les gens se servent. Et
vous
c'est
l'avez
très
déjà
bon.
Fait ça?
Mais bien sûr.
Voilà. Vous voyez,
voilà.
Je sais couper des cure-dents.
Voilà. Je sais couper une poutargue. Merci madame. En tout cas, merci beaucoup Sophie Menu pour cet éclairage gastronomique sur cette spécialité iodée, la poutargue qui existe donc depuis plusieurs siècles. On va encore rester ensemble avec d'autres tendances dans un instant. D'abord, c'est Cécile Coumeau qui nous invite à tester la vie de château. Elle va nous expliquer en tout cas cette aspiration que de plus en plus de gens réalisent, acheter un château à plusieurs. Ça vous dirait pas, Mélanie? On pourrait se lancer dans un, je sais pas, partager un château.
Si vous faites le ménage, moi je suis d'accord.
Je ferai la cuisine,
ok, pas de problème.
Et puis une fois qu'on est propriétaire d'un château, il est important de paraître à son avantage. Et pour cela, il y aura aussi les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Des conseils beauté spécialement pour les sportifs. Je suis sûre que ça va vous intriguer. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et demi avec notre trio de chroniqueurs de talent, toujours autour de la table pour notre séquence tendance. Et maintenant, c'est à vous, Cécile Coumeau, de nous révéler votre tendance du jour, devenir châtelain. Pas besoin d'avoir des titres de noblesse, un nom à particules, ni même une fortune. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir châtelain, ou plutôt co-châtelain, c'est-à-dire, expliquez-nous, Cécile.
Eh bien, co-châtelain, comme son nom l'indique, ça signifie que le beau château avec le donjon et le pont-levis, vous n'en êtes pas le seul propriétaire, vous êtes copropriétaire. Et ça, c'est désormais possible grâce à des start-up qui se sont spécialisées dans le financement participatif au profit de la préservation du patrimoine. Alors concrètement, des vrais châtelains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts font appel à l'une de ces start-up, soit pour trouver des actionnaires qui vont aider à financer les travaux, soit pour revendre complètement leurs biens. La start-up lance donc une campagne de financement pour recruter les co-châtelains.
Ah, c'est drôle ça. Et le but, c'est que tous nos beaux châteaux ne tombent pas en ruine, c'est ça?
Oui, exactement. Comme en France, il y a à peu près 45 000 châteaux, un peu plus que de fromage. Hein, quand
incroyable.
Même. Vous imaginez bien que l'État, il n'a pas les moyens de tous les rénover. Donc, le château de la Motte-Chandonnier, par exemple, vous ne connaissez pas?
Non, du tout.
Moi non plus. Et cet édifice du 19e siècle, qui est situé dans la Vienne, il méritait vraiment d'être sauvé, comme nous l'explique Romain Delhomme, le cofondateur de la start-up D'Artagnan.
C'est un château de conte de fées, on a l'impression qu'il a été dessiné par Walt Disney il y a une centaine d'années. En fait, c'est un château dans lequel il y a eu un incendie en 1932 et depuis qui a été complètement laissé à l'abandon avec une nature qui a repris ses droits à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre les portes du château, en fait, il y a toute une nature, une végétation qui a poussé de manière complètement harmonieuse avec le château. Et en fait, il y a ce spectacle féerique qu'on ne voit nulle part ailleurs avec l'architecture et la nature qui s'entremêlent et qui grandissent finalement dans une grande bienveillance quand on ouvre les portes du château et qu'on voit des arbres qui culminent à une quinzaine de mètres de haut et qu'on voit qu'aucun de ceux-là ne sont dangereux pour la structure du monument, on se dit waouh.
Les propriétaires de la Motte-Chandonnier sont plus de 20 000 aujourd'hui et de 115 nationalités différentes.
Mais Cécile, il faut investir combien pour avoir le titre de ronflant co-châtelain?
Alors c'est variable évidemment, mais chez D'Artagnan, le billet d'entrée, si je puis dire, est de 59 euros.
Ça va,
c'est
tout le monde.
Tout le monde va acheter.
On achète
lequel?
Et vous allez voir, c'est un vrai investissement.
C'est comme acheter une action en bourse au CAC 40, comme investir dans une start-up. Vous avez un numéro de souscripteur, vous êtes identifié comme tel, vous pouvez avoir une action, vous pouvez avoir plusieurs actions. Et puis, évidemment, si les projets avancent bien, il est tout à fait possible que dans les années, l'action prenne un petit peu de valeur. Voilà, on peut aussi transmettre cette action à ses enfants, à ses petits-enfants. Et voilà, et de se dire que, alors même si on est des milliers et des milliers, le fait d'être actionnaire, on a un petit bout du château qui nous appartient.
Moi, je veux juste une petite tour, là, un peu comme une princesse.
Petite tour, ça fait déjà pas mal. Hein,
ah oui,
pas mal d'actions.
Bon, le toit de la tour, alors.
Mais
juste...
bon, et donc, comme tout actionnaire, vous avez le droit, donc, si vous avez ces actions, de donner votre avis sur les projets de rénovation. Mais là où c'est encore mieux qu'une action, je dirais, c'est que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots, en participant bénévolement au chantier de rénovation.
Non, mais moi, je veux bien, mais rénover un monument historique, ça demande quand même quelques compétences, non?
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Il faut des charpentiers, des ferronniers, des maçons, enfin tout ça.
C'est
quoi.
Tout à fait vous, Julia.
Ah, bah, tellement.
Mais pas que. Si vous savez cuisiner, vous pouvez.
Moi je sers à rien.
Non, mais si vous savez débroussailler le parc d'un château, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Hein, donc vous pouvez y aller.
En épilation, mais pas en débroussaillage.
Je peux épiler les gens qui vont dans le potager.
Et
contre.
Sophie, vous?
Non, je voulais savoir, on a le droit d'en profiter de ce château? On a le droit d'y aller, passer un petit week-end?
Oui, on a le droit, effectivement.
Ça arrive.
Alors, on va vous expliquer ça. Je veux juste vous dire que voilà, c'est simple. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'être un bricoleur de génie pour y aller. Écoutez, François Haussin, qui est co-châtelain, il anime le réseau de bénévoles. Il se souvient encore d'un couple qui est venu donner un tout petit coup de main.
Le monsieur, il avait une canne, il avait un peu de mal à marcher. Et ce jour-là, on avait à broyer beaucoup de végétation qu'on avait mis en tas, suite à l'ensemble du débroussaillage qu'on avait fait au préalable. Et ce couple, il se tenait par la main et le monsieur, il tirait une branche. Et voilà, il a fait ça dans son après-midi et j'ai trouvé ça formidable. Et moi, ce que je retiens d'abord de cette histoire, c'est cette aventure humaine qui est formidable. Des gens qui viennent pour apprendre, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, on prend les gens comme ils sont.
Donc, alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut dormir au château? Alors, vu le nombre de copropriétaires, si vous venez tous, arrivez tous, même avec votre tente dans le parc du château, ça va être compliqué quand même. Mais
dommage.
Bon, ça va être possible à la mode Chandonnier. Par exemple, ce fameux château, eh bien, il va y avoir construit des espaces réservés aux co-châtelains. Ça va être créé en 2024. Et puis, de toute façon, alors, je vous le dis tout de suite, jouer au seigneur des lieux, c'est pas tellement ce qui motive finalement ces co-châtelains. Participer à la préservation de notre patrimoine. Les Français, ils sont fans de ça. Et après, c'est l'aventure humaine. François Haussin nous raconte son plus beau souvenir.
On a attaqué une zone en débroussaillage. Donc, il y avait des herbes hautes, il y avait des arbres. Et il y avait... enfin, c'était extrêmement dense au niveau végétation. Et en débroussaillant, on a découvert un pavillon de chasse qui était complètement caché derrière la végétation. Et ça a été incroyable parce qu'en fait, on avait l'impression de découvrir un trésor.
Bon, alors je vois que vous êtes tous passionnés. Hein. Si l'aventure vous tente, vous pouvez devenir copropriétaire du château de Boulogne. C'est un édifice qui est à une heure de Paris. Hanté par les fantômes de la Première Guerre mondiale, la campagne de financement est ouverte sur le site de D'Artagnan.
Ouais, c'est super, merci beaucoup Cécile Comeau pour toutes ces infos et tout ça. C'est franchement très tentant. Qui n'a pas rêvé d'avoir un jour un château, un donjon, des écuries, des oubliettes, 58 chambres? Bon, je m'arrête là car sinon je vais me transformer en princesse. Cela dit, avec vos conseils, Benjamin Lévesque, tout est possible.
Elle est troublée.
Je suis troublée. J'ai envie d'habiter un château.
Non, on va sortir le short, je crois, les haltères, les baskets. Benjamin, on va faire du sport, c'est ça?
Eh oui, effectivement, puisqu'il y a de plus en plus de marques de cosmétiques qui mettent au point des produits de beauté spécialement conçus pour les sportifs et les sportives. Alors pour le maquillage par exemple, vous avez la marque MAC qui a longtemps maquillé les artistes du Cirque du Soleil, qui ont développé plusieurs produits que l'on peut appliquer avant l'entraînement. Alors vous avez bien sûr les rouges à lèvres longue tenue, mais vous avez encore mieux avec, regardez, cette laque à lèvres. Alors c'est une sorte de rouge à lèvres liquide et qui va en fait sécher et qui va tenir beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures.
C'est du plâtre pour la bouche.
Non, j'en ai déjà porté, c'est très efficace.
Ouais, ça va résister à la chaleur, ça va résister à la transpiration. On peut même manger avec, ça ne part pas. Ouais. Seul bémol à l'effrottement, si on s'essuie la bouche avec une serviette dessus, bien forcément on va abîmer le rouge à lèvres.
Bon, et... Benjamin, moi vous savez, j'adore la piscine, c'est ma passion la piscine. On peut quand même se maquiller pour aller dans l'eau.
Et oui, effectivement, les mannequins que vous êtes, les filles, vont pouvoir aller nager avec des yeux de biche grâce à ce mascara totalement waterproof. Il coûte 22 € et qui va résister à l'eau de la piscine, comme l'explique Tom Sapin, qui est maquilleur professionnel pour MAC Cosmétiques.
C'est un mascara qui est aquarésistant mais qui dépend de la température de l'eau. Par exemple, on va aller dans une piscine d'eau froide, le mascara ne va pas couler. Donc par exemple, moi je l'utilise aussi sur mes mariés qui vont pleurer le jour de leur mariage parce que je sais qu'à l'eau froide, donc l'eau des larmes, etc., il ne coulera pas. En revanche, c'est un mascara qui, après cette séance de piscine ou ce mariage par exemple, va s'éliminer à partir d'une certaine température de l'eau. Donc par exemple, si on prend une douche chaude, là le mascara va s'éliminer complètement. C'est pour ça qu'il est adoré par les sportifs.
Et vous avez même l'ombre à paupières, c'est un fard à paupières liquide et puis un fond de teint qui résiste à l'eau. Et donc en fait, la transpiration va perler à travers le maquillage et ne l'emportera pas avec.
Ça coûte combien ? Parce que si c'est aussi technique, moi j'ai l'impression que ça va être très
cher. Alors le fard à paupières, il est à 24 euros et le fond de teint, 39 euros.
Bon, c'est correct. Il y a aussi d'autres cosmétiques, des soins à appliquer sur la peau pour faire de meilleures séances de sport. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement avant l'entraînement ?
Et oui, c'est bien connu, les filles, avant de faire du sport, qu'est-ce qu'on fait ?
On se maquille.
Non, on s'échauffe.
Oui, on s'échauffe. Donc pour bien préparer son corps avant le sport, il y a des marques comme M+, qui a vu le jour l'an dernier et qui fabrique des produits pour les sportifs exclusivement. Alors ce sont des petits emballages étanches, donc pratiques à glisser dans le sac de sport. Et vous avez par exemple ce baume chauffant. En fait, il suffit donc de l'appliquer sur le muscle que l'on va utiliser. Donc si j'décide de faire les haltères, je vais l'appliquer.
Il est en train de s'appliquer sur le biceps.
Le bras. Ouais. Si vous faites un footing, Sophie, vous le mettez sur
vos jambes. Ça sent comment, Sophie ? Me dites pas que ça sent la poutargue.
Ça sent un peu les produits arnica,
il suffit de bien masser, de malaxer, et donc ça va en fait chauffer le muscle. Il y a même du gingembre dedans, ce qui fait que ça va tonifier.
Ça nous excite un peu. Quoi.
Voilà, exactement. Alors je sais pas ici qui fait de la course à pied ou fait son sport.
Cécile Couvreur, je sais. Cécile. Ah, et Sophie Menu.
Cécile et Sophie. Alors avec le froid, j'imagine que c'est un enfer en ce moment pour courir. Alors pour éviter de se geler les et ben vous avez la marque Aquiléine qui a sorti une gamme de produits chauffants. Donc là, vous avez pour les mains, les pieds, le visage. Et en fait, ils sont à base d'huile essentielle de piment. Donc ça va agir sur...
Ça va chauffer dans les chaussettes. Dans la vie,
voilà. Ça va courir beaucoup plus.
Exactement. Ça va agir sur les thermorécepteurs de la peau. Donc si vous frottez bien ce gel sur la peau, et ben ça fait comme si vous mettiez du piment sur la langue.
C'est drôle.
Ça va pas piquer, mais ça va chauffer.
Et après le sport, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je crois que vous avez apporté une huile pour le corps.
Oui, c'est une huile du tigre de la marque La Canopée, qui est inspirée du baume du tigre.
Oui,
alors il y a dedans trois ingrédients très intéressants après le sport. Vous avez le camphre, donc les propriétés qui soulageraient les articulations. Vous avez
Sophie, ça va vous sauter la figure.
Du menthol qui va apporter une grande fraîcheur et qui aide à la circulation sanguine. Et puis de l'huile essentielle d'eucalyptus qui va apaiser le muscle. Et donc on va l'utiliser, cette huile, en massage après le sport. Et le fait de masser un muscle après une séance de sport, eh bien, ça apporte un effet bien-être, comme l'explique le kinésithérapeute Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, sur les réseaux sociaux.
Quand on masse, on va augmenter le flux sanguin, la circulation sanguine cutanée. Et ensuite, on a un effet qui est aussi neurologique au niveau des réflexes en diminuant l'excitabilité neuromusculaire dans le muscle. Ça a pour conséquence de diminuer les douleurs musculaires. Quand on a fait du sport, on a souvent mal, on a des tensions. Donc, il ne faut pas se priver de quelque chose qui pourrait nous faire du bien.
Bon, mais là, on est bien plein de cosmétiques,
vous
bien massés.
Prête, là,
maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire du sport quand même. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces conseils toujours aussi concrets pour prendre soin de nous. C'est de la beauté vraiment pratique avec vous et c'est ce qu'on aime dans cette émission. Des conseils à appliquer au quotidien.